Donc, on continue notre longue série d'un an avant et après Jésus-Christ, parce que on continue de découvrir que après Jésus-Christ, c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment mieux. Ma femme aime mieux après Jésus-Christ que avant Jésus-Christ. Je peux vous le dire. Allez demander, elle va vous le dire. Elle a hâte que ça soit encore plus après Jésus-Christ dans ma vie, mais ça s'en vient. La semaine passée, on a vu, dans cette série-là, avant et après Jésus-Christ, on a vu, mon titre c'était « Croyance versus connaître ». Un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. La semaine passée, ce que j'ai apporté, c'est un petit peu la suite de ça qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur la terre, il y a des croyances. Mais on a vu la semaine passée que des croyances, c'est pas solide. C'est difficilement défendable et c'est facile d'essayer de les mettre à terre. OK? Parce que c'est des croyances. Et on a vu pourquoi la semaine passée, pourquoi c'est pas solide. OK? Et on a vu que les chrétiens, c'est pas des croyants. Saviez-vous ça? Les chrétiens, c'est des personnes qui connaissent Dieu. Dans le monde chrétien, il y a des gens qui ont des croyances, mais qui connaissent pas encore Dieu. Tu sais, même des gens qui ont été baptisés tout petits, ils ont pas rencontré Dieu encore. Donc, s'ils croient que Jésus existe, c'est des croyants, mais c'est pas des personnes qui connaissent Dieu. Mais les chrétiens, le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, c'est les personnes qui le connaissent personnellement. La semaine passée, on a vraiment décortiqué la différence entre des croyances. On a passé à travers plusieurs religions. Et finalement, connaître Dieu, c'est quoi? Et on a parlé beaucoup du fait que Dieu, son désir, c'est que son peuple le connaisse. Amen. On a terminé en disant que croire en Jésus, c'est quand même la porte pour le connaître. Donc, faut commencer par croire avant de connaître. Et j'avais partagé un petit peu mon histoire où je cherchais à tâtons dans toutes les sortes de croyances du monde entier et je n'ai pas connu Dieu tant que je n'ai pas cru en Jésus-Christ. Mais c'est la journée que j'ai ouvert la porte à Jésus, que Jésus s'est révélé à moi et j'ai arrêté d'avoir des croyances et j'ai connu Dieu. Et ça fait toute la différence. Donc, toutes les milliers de croyances sur la terre apportent une sorte de support personnel, une sorte de, je dirais une béquille. Parce que pourquoi une béquille? Parce que l'être humain a besoin de croire en quelque chose. Donc, quand tu as une croyance, et en plus, quand tu as une communauté qui croit avec toi, ben ça te fait un fondement solide et c'est plus solide que croire en rien. Et on a vu à quel point les personnes qui ne croyaient en rien avaient beaucoup plus de difficultés à être heureux. Ça, c'est des statistiques qui le prouvent. Donc, une croyance, ça apporte quand même quelque chose, mais ça ne fait pas connaître Dieu personnellement. Vous savez, l'être humain sur la terre, même nos enfants, des fois, qui grandissent dans l'Église, ont besoin de faire un petit survol des croyances à un moment donné pour dire il y a juste Jésus qui est la voie. C'est comme si, mettons que je suis dans mon char puis je vais écouter le football des Alouettes, OK? Fait que là, je vais faire scanner parce que je me souviens pas c'était quel poste. Je vais faire scan à mon radio, puis là, il va scanner tous les postes. Puis à un moment donné, quand ça va tomber sur le poste des Alouettes, peu importe, que ce soit une annonce de Ram ou le gars qui est en train de commenter, je vais savoir que je suis sur le poste, je vais l'arrêter là. C'est un peu semblable, hein? À Noël, tu mets le scan pour trouver un poste qui a des chansons de Noël. Quand tu arrives dessus, il n'y a pas besoin de chanter longtemps, tu le sais, hop, c'est des chansons de Noël. C'est un peu ça le scan qu'on fait des croyances qu'à un moment donné, quand on arrive sur Jésus, il y a comme une porte qui s'ouvre. Et là, c'est plus juste une croyance. La porte s'ouvre sur l'éternité, sur la vie, sur un chemin qui ne finit plus de pouvoir être exploré. Et c'est la connaissance personnelle de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et aujourd'hui, j'avais à cœur d'aller un peu plus loin dans le côté connaître. On a parlé des croyances. Aujourd'hui, j'avais à cœur d'aller plus loin dans le côté connaître. Et c'est pour ça que les chansons de Véro, je trouvais qu'elles étaient tellement appropriées dans le fait de connaître Dieu. Jésus dit, c'est moi qui suis la porte. C'est pour ça que quand on scanne et qu'on arrive sur Jésus, on rencontre, là, c'est plus une croyance, mais une porte qui s'ouvre. Des fois, dans les autres croyances, je vous avoue, j'ai vu des portes, mais ça donnait tout le temps d'un cul-de-sac. Fait que la porte, elle ouvrait, mais elle arrivait d'une autre pièce, puis finalement, t'avançais plus. OK? Et il y a beaucoup de grands chercheurs spirituels qui ont fait ça dans leur vie. Ils ont cherché dans toutes sortes de spiritualités de l'Inde et tout ça, mais ils arrivaient toujours à une porte, c'est-à-dire à un mur. Quand c'est Jésus, la porte s'ouvre et elle ne se referme pas. C'est une porte qui s'ouvre vers l'éternité, vraiment. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Amen. Il sera sauvé. Une expérience spirituelle qui te convainc que tu es dans la bonne voie, qui te libère de ton ancienne vie, qui apporte soudainement un espoir, une bouffée d'air frais, une vie légère, les fardeaux tombent, tout change, OK? Tu seras sauvé si tu rentres par cette porte-là. Tu entreras et sortiras. Quand on rentre en Jésus-Christ, on ne rentre pas dans une secte fermée. On ne rentre pas dans une trappe où on n'est pas emprisonné. On peut sortir, on peut rentrer, mais on reste connecté à notre Sauveur. Amen. Et c'est tellement meilleur, plus léger, et ça donne la vie. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai apporté le témoignage, on en reparlait tantôt, d'un bouddhiste qui s'appelait Alex. Et quand il a rencontré Jésus, il dit, j'ai rencontré la vie. Il dit pas l'énergie. Ça, là, je la connaissais. Non, ce que j'ai rencontré, c'est la vie. Amen. C'est la vie qu'on rencontre avec Dieu. Ça prend de l'humilité, bien entendu, pour s'arrêter sur Jésus. Parce que toutes les autres voies ont fait des efforts pour pouvoir atteindre Dieu. Et quand on rencontre Jésus, on se rend compte qu'il a tout accompli déjà pour nous. Ça prend de l'humilité. Il faut que tu dises, par moi-même, je suis pas capable, j'y arriverai pas. Je dois laisser le contrôle de ma vie à quelqu'un d'autre. Et cette humilité-là, souvent, elle arrive après avoir vécu une vie de vouloir contrôler notre vie, une vie d'orgueil. On se rend compte, on est obligé de laisser ça de côté. On s'humilie, humilie-toi devant le Seigneur et le Seigneur t'élèvera. C'est ce qu'il nous dit. Amen. Et c'est ce qu'on vit. Donc, on va aller plus loin aujourd'hui dans connaître. OK? Connaître quoi ou connaître qui? Drôle de question quand on parle de Dieu. Vous allez voir pourquoi je vous pose cette question-là aujourd'hui. Sentir quoi? Sentir qui? Aujourd'hui, plus que jamais, on nous offre toutes sortes d'expériences, de ressentis spirituels. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin, ils veulent pas de la théorie, ils veulent du vrai. Et il y a plein d'instances spirituelles qui offrent des expériences spirituelles. Sentir quoi? Sentir qui? C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Par rapport à connaître, il y a un verset intéressant qui contient non pas le mot connaître, mais le mot reconnaître. Ça dit « reconnais-le » en parlant de Dieu « dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Dieu nous invite non seulement à le connaître, comme on a vu la semaine passée, mais il nous invite à le reconnaître parce que Dieu ne change pas. Il y a toujours la même saveur, la même odeur, la même senti. OK? Il donne toujours cette même paix-là qui, moi, me guidait toute ma vie. Une paix surnaturelle. que je ne peux pas trouver nulle part sur la terre, ni dans aucune méditation ou religion ou exercice spirituel. Jésus dit, goûte-moi, connais-moi, et après ça, reconnais-moi constamment toute ta vie. Amen. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est « Reconnaître ». Et dans ce titre-là, mon petit plan, c'est, on va commencer par approfondir le connaître. Comment Dieu s'est manifesté dans l'histoire de façon palpable pour qu'on le connaisse et reconnaisse. On va parler par rapport à l'Ancien Testament dans l'ère chrétienne. On va voir que c'est pareil, comme dans l'Ancien Testament, mais c'est plus. Et finalement, on va parler de différencier les expériences spirituelles palpables versus le vrai Dieu. Amen. Donc, on commence par connaître, hein, comment Dieu s'est manifesté dans l'histoire de façon palpable pour qu'on le connaisse et qu'on le reconnaisse. Hein. On l'a chanté ce matin. Il se manifestera. Ça veut dire qu'on est supposé de sentir, voir, goûter, toucher. Il y a quelque chose qui se passe dans notre être qui fait que on fait pas juste avoir une croyance, mais qu'on le connaît. On sait que dans la parole de Dieu, à part dans le temps d'Adam et Ève, quand Dieu a commencé à se manifester, ce qu'on connaît bien, c'est quand il s'est manifesté en Égypte, okay? Lorsqu'il a envoyé des plaies, donc des choses très palpables par le peuple égyptien pour faire sa volonté et permettre que son peuple sorte d'Égypte. Donc, Dieu s'est manifesté de toutes sortes de façons. Okay? Et c'est là que Dieu a dit à son peuple, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Ici, Dieu parle à Moïse. Dieu se manifeste à Moïse. Okay? Il s'était manifesté, on sait, dans les plaies d'Égypte, c'est-à-dire que la nature, okay, il avait ordonné à la nature de se manifester et est arrivé à ses fins de cette façon-là. Mais là, il parle, il est en relation. Donc, Moïse connaissait Dieu personnellement. Et le cœur de Dieu, ce qu'il révèle à Moïse, c'est « Je veux pas juste te connaître toi personnellement. Je veux un royaume de gens qui me connaissent. » C'est-à-dire un royaume de prêtres. Il y a quelques semaines, j'ai apporté un enseignement sur justement le fait que Dieu, son Église, ce sont tous des prêtres. On est tous prêtres de l'Éternel. Et j'avais mis l'accent plus sur le fait qu'on est tous appelés à agir. On est tous appelés à être en action pour le royaume des cieux. Okay? Donc, c'est pas juste un clergé qui agit, puis nous autres, on est assistants, comme dans toutes les religions. Dans le peuple de Dieu, ça se passe pas de même. Tout le monde est en action pour établir le royaume des cieux sur la terre. J'avais mis l'accent là-dessus. Aujourd'hui, l'accent que je veux mettre sur, c'est surtout sur le fait de être en communion avec Dieu, parler. Donc, quand Dieu dit à Moïse, ce que je veux, c'est un royaume de prêtres. Ça veut dire un royaume de personnes qui sont en contact avec moi. Parce qu'on sait que dans l'Ancien Testament, c'était juste les prêtres qui pouvaient être en contact avec Dieu et qui pouvaient recevoir les instructions de Dieu et les amener au peuple et aussi recevoir les sacrifices du peuple et les amener à Dieu. Donc, c'était l'intermédiaire. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il voulait. C'était pas son plan. Son plan, c'est d'avoir un royaume de prêtres. Tout le monde qui vient vers lui, tout le monde qui lui offre des sacrifices de louange, comme on a fait ce matin, et tout le monde qui reçoit ses instructions et qui entend sa voix. Ça, c'était son cœur lorsqu'il parlait à Moïse. Amen. Écoutez ma voix, hein? Toutes des choses palpables. Je me manifeste. Gardez mon alliance. Vous me faites confiance parce que vous me connaissez. Vous m'appartiendrez personnellement, mon peuple à moi, et je veux faire de vous un royaume de gens qui sont en relation avec moi. Amen. Donc, un royaume de prêtres, peuple qui le connaît personnellement. Donc, Dieu parlait à Moïse de son désir, mais il n'était vraiment pas rendu là dans ce temps-là. Il avait juste une relation avec Moïse seulement. Hein? Après les miracles que le peuple d'Israël a vus en Égypte, toutes les plaies d'Égypte, okay? Dieu finit par se manifester, mais là, de la façon qu'il aime se manifester, c'est-à-dire de leur parler. Il voulait que le peuple d'Israël l'entende. Alors, il demande à Moïse de les rassembler et il décide de leur parler. Et il se manifeste à eux. Exode 19, 11. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra du mont Sinaï. Et ça dit dans Exode, le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. On voit certains éléments ici. Hein? On parle de tonnerre, des bruits, on parle d'éclairs. Donc, du vent, hein? C'était une tempête. Il y avait du vent, il y avait une nuée, il y avait des trompettes, il y avait du feu, il y avait un tremblement de terre. Quand on lit ça, est-ce qu'on pense que Dieu veut se rendre palpable à l'humanité? Je pense que c'est assez évident que oui. Hein? Il voulait pas que son peuple ait une idée théorique de qui il est. Il voulait que son peuple le voie. Amen. C'est le désir de Dieu. Ça a toujours été le désir de Dieu. Dieu ne change pas. Il veut se faire connaître de façon palpable encore aujourd'hui. C'est sa volonté pour son peuple. Mais dans le temps, le peuple n'était pas prêt à le connaître. Ils ont demandé à Moïse... Moïse, on te demande de parler à Dieu, puis dis-nous ce qu'il veut nous dire. Ça nous fait trop peur. Hein? Donc, il y a juste Moïse qui acceptait de le connaître personnellement. Le reste du peuple avait trop peur. La conquête de Dieu pour nos âmes a été préparée pendant des siècles. Son but ultime, c'était de vivre ce qu'il vit avec nous. Donc, dans sa conquête pour nos âmes, il a nommé quelques prêtres qui étaient allés là tranquillement. Il y avait Moïse. Là, il y a Moïse. Là, ça va me prendre quelques prêtres qui vont être aussi en relation avec moi. Des gens qui vont rentrer dans le lieu très saint, dans le temple, et qui vont me parler, que je vais leur parler. Dieu commençait à vouloir agrandir son peuple de prêtres. Son peuple en communion avec lui. Amen. Donc, une fois que ça a été préparé, les prêtres, qui étaient la famille d'Aaron, le frère de Moïse, ont accepté et ils se sont mis à agir en tant que prêtres, selon les instructions de Dieu. Et ça dit dans Exode 40, 34 et 35, « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Donc, Dieu avait dit à Moïse de lui construire une tente, qui était le tabernacle, de choisir des prêtres. En fait, Dieu a choisi certains prêtres et eux, ils vont venir à ma rencontre dans cette tente-là. Et quand il a eu fini de construire cette tente-là, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc, il y avait une nuée qui était présente, quelque chose de visible, palpable. Okay? Et c'est pas juste une nuée, cette nuée-là, c'est aussi du feu. Quand on regarde un peu plus loin, ça dit, le peuple d'Israël, à chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune des étapes. Donc, une nuée, un feu, c'est ce qui les guidait, une présence palpable. Ce qu'on voit constamment dans le Nouveau Testament quand Dieu se manifeste, de façon répétée, le vent, le feu, la nuée, et ce qu'on voit aussi, c'est la parole. À Moïse, il parlait. On sait qu'il a parlé à certains rois, à David, à Salomon, à des prophètes. Donc, Dieu se manifestait par le vent, par les nuées, par la parole, par le feu. Dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu a jamais guidé son peuple avec des croyances, avec de la théologie ou avec de la théorie. Dieu a toujours guidé son peuple de façon palpable. Toujours. Okay? Quand tu lis la Bible d'un couvercle à l'autre, on ne peut que croire que Dieu se manifeste de façon palpable. Moi, j'ai pas connu l'Église. J'ai lu la Bible pendant 8 ans avant de connaître l'Église. Donc, pendant 8 ans, Dieu m'avait touché. Dieu était venu vivre en moi. Je lisais la Bible et je savais pas qu'il existait une église où ce que Dieu se manifestait, où ce que les gens avaient cette relation-là que moi je vivais. Okay? C'est peut-être mon côté orgueilleux qui était pas encore tombé. J'avais l'impression que j'étais tout seul qui vivait ça. Non, je savais qu'il y en avait d'autres, mais je savais pas trop où. Mais tout ce que je lisais dans la Bible, c'était juste des manifestations de Dieu. Il y a rien d'autre dans la Bible que des manifestations de Dieu. Et ça a toujours été la volonté de Dieu de se manifester. Il met, bien entendu, dans l'Ancien Testament, un accent sur la loi. Okay? Et la loi, oui, on pourrait voir ça comme une théorie, une croyance qu'on accepte dans notre vie puis qu'on met en pratique. Pourquoi que Dieu a fait ça? Ben parce que le peuple n'était pas prêt encore à rentrer en communion puis à être des prêtres de l'Éternel. Donc, la loi, ce qu'elle avait comme effet, c'est que les gens qui la suivaient se rendaient compte que leur vie était meilleure. Quand tout le peuple suivait, bien, tout allait mieux dans le peuple. Donc, les gens se rendaient compte que la loi était bonne. Et donc, ça leur donnait une preuve que Dieu qui avait donné cette loi-là, ben ça devait être Dieu, parce que ça marche, sa loi. Mais le péché humain faisait que souvent, il s'en éloignait, parce que c'est jamais aussi puissant suivre la loi de Dieu que d'avoir une relation avec lui. Donc, Moïse est en relation avec Dieu et quelques prêtres. Okay? Les prêtres recevaient les instructions et donnaient les instructions au peuple. Ça dit, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Donc, les prêtres maintenant font une action envers le peuple. C'est plus juste Moïse. Les prêtres font une action et qu'est-ce qui se passe? Un feu sortit de devant de l'Éternel et brûla l'holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple vit et ils poussèrent des cris de joie. Ils se jetèrent visage contre terre. Manifestation de Dieu lorsque les prêtres décident d'agir en tant que prêtres de l'Éternel par le feu. Le feu qui approuve, et non seulement approuve les offrandes des prêtres, mais il est bouffe, il vient les consumer, d'une shot. On connaît tout ça de ce temps-là, le feu qui consume? Qui consume nos forêts? Est-ce que c'est palpable? Hier matin, j'étais dans mon petit air climatisé, aussitôt que j'ai ouvert la porte, la boucane. Dieu aime ça qu'il soit palpable. C'est juste que Dieu, c'est pas mal meilleur que les feux de forêt. Donc ici, on n'a plus juste Moïse, mais on a une famille de prêtres en communion avec Dieu. Mais le plan final de Dieu, c'était pas ça. C'était un royaume de prêtres. pas juste une petite famille de prêtres. Donc, au travers d'une succession d'événements qui ont duré des siècles, OK, tranquillement, le peuple est dirigé par Dieu. Il y a une petite poignée qui écoute Dieu, des prophètes, des prêtres. Et le peuple rentre dans la terre promise. Dieu se manifeste de façon palpable à certaines personnes. Et à cause de ça, ben, il se forme un peuple prêt à avancer et à aller plus loin. OK? Dieu parle à Salomon. Lorsque Salomon eut fini de prier, et lui dit, c'est toi qui vas construire le temple que ton père David veut me construire. Salomon devient un prêtre de l'Éternel, ok, dans le sens de ce que Dieu voulait, un homme qui est en communion avec Dieu. Pas comme nous on le vit par moment. Dieu y est apparu, il a parlé avec, ok, c'est arrivé une couple de fois dans sa vie, ok. Et Salomon l'obéit, donc il agit comme prêtre. Dieu y dit quelque chose, Salomon le fait. Qu'est-ce qui se passe? Le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'agenouillèrent le visage contre terre sur le pavé. Ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant, « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Quand Dieu se manifeste, tu goûtes la bonté de Dieu. Et tout ce que tu as le goût de faire, c'est tout laisser pour le suivre, pour t'incliner devant lui. Okay? On a la grâce, nous autres, d'être en communion constante avec Dieu, si du moins on s'arrête pour vivre cette communion-là avec Dieu. Ces personnes-là qui ont vu le feu descendre du ciel, ils se sont mis à terre et sont mis à dire « L'Éternel est bon, sa miséricorde, sa bonté dure à toujours. » Mais il n'y avait pas cette relation-là qu'on a la grâce de vivre aujourd'hui. Donc, c'était bon sur le moment, mais après ça, ils retournaient à leurs activités et, bien entendu, le péché qui est à l'intérieur de l'homme et qui veut constamment nous perdre était là et le peuple constamment s'éloignait de Dieu. Ça a été l'histoire du peuple d'Israël. En cours de route, Dieu, par son prophète Joël, par contre, annonce, comme il avait fait avec Moïse, d'une façon différente, que son désir, c'est d'avoir un peuple de prêtres, un peuple de personnes en communion avec lui. Et par Joël, il le dit de cette façon-là. Il dit, « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, palpables. » Donc, ils entendront ma voix et ils diront ce qu'ils entendent. Vos vieillards auront des rêves palpables, quelque chose que tu vois. Vos jeunes gens des visions, une vision palpable par nos sens. Okay? Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu encore, des colonnes de fumée encore. Dieu est le même hier, aujourd'hui. Et pour éternellement. Ce qui nous amène à l'ère chrétienne. L'ère chrétienne, c'est pareil. Dieu veut se manifester et Dieu se manifeste. Mais c'est plus encore. On a parlé, je pense Jerry, on a parlé du jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui est arrivé tout à coup? Il vint du ciel, donc Jésus est mort, ressuscité, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Est allé au ciel, les disciples sont en train de prier et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Reconnaissez-vous des choses palpables de l'Ancien Testament ici? Elles sont toutes là. Hein? Un bruit, un vent violent, comme la première fois qu'il est apparu au peuple d'Israël, remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, hein, Dieu qui parle par ses prophètes, qui parle au roi parfois, qui parle aux prêtres qui vont dans le lieu très saint. De façon palpable, Dieu parle, qui semblait de feu, encore le feu. Dieu se manifeste avec le feu, leur apparure, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais là, c'est plus le temple qui est rempli de nuées, que les gens ont de la misère à se voir tellement que la présence de Dieu est forte. C'est en dedans d'eux que ça se passe. Ça, c'est nouveau. Ils furent remplis de cette nuée-là du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu, comme il a parlé dans tout l'Ancien Testament à certaines personnes, là, toutes les gens qui étaient là se mirent à parler les merveilles de Dieu, de parler de ce que Dieu veut dire, de parler la parole de Dieu avec le langage de Dieu. Amen. C'est pareil, mais c'est plus. On voit que dans l'ère chrétienne, quelque chose, ce qui est nouveau, c'est pareil, mais ça se passe à l'intérieur. Ça se passe plus en dedans, parce que Dieu est un Dieu de profondeur. Dieu est un Dieu d'intimité. Et toute la préparation de tout ce qui était spectaculaire qu'il préparait dans l'Ancien Testament, c'était dans le but de préparer quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intime. Et pas longtemps après ça, de façon surnaturelle, 3000 personnes sont convaincues dans leur intérieur que Jésus-Christ est le Seigneur, alors que les minutes qui précédaient ça, ils ne croyaient pas ça. La puissance de la révélation de Dieu dans le cœur. 3000 âmes, d'une shot, connaissent Dieu soudainement, personnellement. Un nouveau peuple est né. Un royaume de prêtres comme Dieu avait déjà annoncé à Moïse que c'était ce qu'il voulait et c'était ce qu'il a préparé pendant 1500 ans. C'est ce que Pierre dit lorsqu'il dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. » Là, il parle à vous autres, là, à nous autres. « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Des gens qui le connaissent, c'est ça les prêtres que Pierre parle ici. Pas des gens qui ont une croyance, des gens qui connaissent vraiment Dieu de façon palpable. Dans tout le Nouveau Testament, on rencontre les mêmes manifestations de Dieu, mais c'est intérieur. Le vent, hein, quand Jésus rencontre Nicodème, il lui dit « Il faut naître de nouveau si tu veux voir le royaume des cieux. » Mais l'Esprit qui vient vivre en toi, c'est comme le vent. On retrouve le vent ici. Tu sais pas d'où il vient, tu sais pas où il va, mais tu sais qu'il est là. Tu le ressens. C'est le vent de l'Esprit. La nuée qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, lorsque Jésus est encore sur la terre, il y a une nuée visible qui est vue par Pierre, Jacques et Jean sur le mont de la Transfiguration. Et Élie et Moïse apparaissent à ce moment-là. Ou quand Jésus remonte au ciel, la dernière fois que les disciples l'ont vu, c'est une nuée qui vient et qui l'amène. Et maintenant, la nuée, c'est en dedans de nous. C'est ce qu'on appelle, les chrétiens, la présence de Dieu. C'est ce qu'on chante, la présence de Dieu. C'est ce qu'on crie à Dieu, « Seigneur, plus de ta présence. Manifeste-toi. » J'ai soif de ta présence, j'ai besoin de ta présence parce qu'elle est tellement bonne, elle me fait tellement du bien, elle me soulage, elle me guérit, elle me délivre, elle me transforme, elle change tout, ta présence. Amen. C'est ce que Dieu prépare depuis des milliers d'années pour nous, aujourd'hui. Il nous aime-tu? Le feu. C'est bien décrit dans les disciples d'Emmaüs. Hein? Ces deux disciples-là qui, après la mort de Jésus-Christ, marchait et n'avait pas encore réalisé que Jésus était mort dans le but de ressusciter. Ils n'avaient pas compris ça encore. Et Jésus les rencontre en chemin. Ils ne le reconnaissent pas. Et il dit, « De quoi vous parlez? » Et ils disent, « Bien, on n'était pas au courant à Jérusalem. Le grand prophète Jésus, finalement, ils l'ont crucifié. C'est fini. » Puis là, Jésus il dit, « Aïe, vous êtes lent à comprendre les Écritures. » Donc, il va chercher dans tout ce qu'on vient de voir. Et il leur explique le plan de Dieu. Et c'est intéressant ce qu'ils disent. Après que Jésus leur ait parlé et qu'il est parti, il a disparu devant eux autres en sortant le pain et le vin. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Le feu, le même feu qui était sur la montagne, il était rendu en dedans d'eux autres. Ce feu-là qui a fait que, avant même de le reconnaître, après avoir marché avec lui, ils ont dit, alors que Jésus continuait vers Jérusalem, « Hey, reste avec nous, tu nous fais du bien, tu fais quelque chose en dedans de nous autres qu'on n'a jamais senti. » C'est le feu de l'Éternel. Et quand que Jésus a disparu, ils ont compris. C'est ça le feu qui brûlait en dedans de nous autres. C'était Jésus qui était là. Amen. C'est pareil, mais c'est plus dans la nouvelle ère. Amen. Finalement, Dieu a son peuple de prêtres que vous êtes. Depuis 2000 ans, ça se multiplie sur la terre. Un peuple, un royaume de prêtres qui le connaissent personnellement. Amen. Maintenant, je prends quelques minutes pour parler d'autres sortes de présences. Et c'est important, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on offre au monde d'autres sortes de manifestations palpables, spirituelles, qui ne sont pas de Dieu. OK? Il faut en parler de ça. Parce que quelqu'un pourrait te dire, « Moi aussi, je sens des affaires. » OK? On va en parler. Donc, ça m'amène à mon troisième point. Différencier les expériences spirituelles palpables versus le vrai Dieu. Qu'est-ce qu'on offre au monde aujourd'hui? Hein? Les gens cherchent des expériences. Les gens ne veulent plus de théorie. Okay? À moins d'appartenir à une grosse religion puis de sentir bien dans ta communauté, puis dire, oh, c'est ça qui est pour moi la vérité en attendant de connaître Dieu comme on a vu la semaine passée. Les gens, surtout les gens qui ont décroché de la religion, veulent des expériences spirituelles. Et on en offre de toutes sortes. OK? L'ennemi de Dieu qui copie toujours Dieu, c'est ce que l'être humain a besoin et va essayer toujours de copier pour donner aux gens ce qu'ils recherchent et leur permettre de passer complètement à côté du plan de Dieu pour eux. Amen. Donc, il sait que l'homme veut ressentir des choses. Okay? Mais c'est des choses qu'on ressent quand c'est pas Dieu. C'est pour ça que je vous disais tantôt, des choses ou quelqu'un. Lorsque Dieu, Jésus se révèle à nous, on ressent une personne, on ressent la vie. Et plus on le connaît, plus on se rend compte à quel point il est le Dieu créateur de l'univers, celui qui nous a aimés, celui qui a cette capacité-là d'aimer. Souvent, je vais dire ça à des gens qui vivent des expériences spirituelles. « Ah oui, l'énergie est bonne. » Je leur dis, « Est-ce que l'énergie t'aime? » Chaque fois que je leur dis ça, ils disent, « Non, même pas. » Moi, je dis, « Je te parle d'un Dieu qui aime. C'est pas pareil, c'est une personne. » Qu'est-ce qu'on offre au monde? Des énergies, de l'énergie, des vibrations, des auras qui se voient, des sensations, du magnétisme, des transes, des expériences de transcendance, les extases mystiques, des vides intérieurs, des fausses paix qu'on appelle des vides intérieurs, des sentiments de communion avec le divin, des expériences hors du corps, des contacts avec l'au-delà, avec des esprits, avec des morts, des visions, des apparitions, sans parler de tout ce qui est spiritisme, voodoo, sorcellerie et toutes ces choses semblables-là. Ça, c'est ce que l'ennemi offre par toutes sortes de personnes qui sont de bonne volonté. Il ne faut pas juger ces gens-là. Ils sont de bonne volonté. Ils pensent vraiment qu'ils ont trouvé quelque chose. OK? Je pensais vraiment d'avoir trouvé quelque chose chaque fois que j'avais une piste avant de trouver Dieu. OK? Mais c'est l'ennemi en arrière de tout ça qui veut nous tromper et nous éloigner de ce qui est vrai, de ce qui est la vérité. Donc, ces personnes-là vivent vraiment des choses palpables. Mais la question dont je connais la réponse, est-ce que ces expériences-là sont bénéfiques pour eux? Est-ce qu'ils conduisent à un bon chemin? Est-ce qu'ils révèlent la vérité? Et est-ce qu'ils donnent la vie? Et la réponse est non. Hein? Aucun de ces chemins-là. Ça donne un espoir parce que tu sens quelque chose, tu vis quelque chose, donc tu as une piste, tu penses que tu es sur la voie de la vérité, mais ça n'amène pas le chemin de la vie. Ça n'amène pas la vie, ça n'amène pas la vérité. Amen. Est-ce que je vais faire confiance à tout esprit pour mettre mon destin dans ces esprits-là? Ou est-ce que je vais faire confiance à celui qui m'a créé et qui est venu sur terre mourir à ma place et me donner la vie éternelle? Hein? Jean, il nous en parle, l'apôtre Jean. Il dit, « Bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit. » Mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Et voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est fort, hein? Comment voir si quelque chose de spirituel est de Dieu? Est-ce que ces personnes-là confessent Jésus-Christ comme seul Seigneur? Est-ce que ces personnes-là acceptent que c'est Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est au-dessus de toute spiritualité et de toute expérience spirituelle, que c'est Jésus venu dans sa chair, sur terre et mourir pour nos péchés. Hein? Jean, il dit, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui recherchent un Antichrist, une sorte de bête qui va apparaître, qui va s'asseoir dans un temple. Je veux pas offenser personne aujourd'hui. Moi, je crois pas à cette théologie-là. L'Antichrist, il était là il y a 2000 ans. C'est un esprit. C'est un esprit qui convainc les êtres humains que c'est pas Jésus le chemin, que c'est d'autres choses le chemin. Et tout esprit qui est contraire à la voie de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est l'esprit de l'Antichrist qui motive cet esprit-là. Donc toute spiritualité palpable qui est pas fondée sur Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Jean, il dit, c'est contre Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Amen. Au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Hein? Par elle, tout a été créé et la parole s'est fait chair. Elle est venue habiter et vivre parmi nous. On parle de Jésus-Christ ici. Donc, si Jésus, OK, en chair, qui est venu sur la terre, OK, est vraiment le seul barème sur lequel on peut se baser pour dire que quelque chose est de Dieu et dans la vérité ou non, ben ça inclut aussi toute sa parole. C'est pas juste la personne de Jésus-Christ, mais c'est la Bible au complet. La parole au complet. C'est ce que Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Amen. Donc, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu n'est pas inspiré de Dieu, mais est inspiré d'instances qui sont contraires à Dieu, que Jean appelle l'esprit de l'Antichrist. Qui m'a convaincu que la parole de Dieu était la vérité dans mon cheminement avant même de connaître l'Église? C'est le feu, c'est la nuée, et c'est le vent. Parce que Jésus était venu dans mon esprit, il était venu en moi. J'avais reconnu ce feu qui brûle, ce vent qui est bon, qui donne la vie, cette nuée de sa présence. Et chaque fois que j'ouvrais la parole de Dieu, ces mêmes trois éléments-là se manifestaient. Et c'est là que j'ai compris et j'ai résisté longtemps à croire que la Bible était. Même après avoir connu Jésus-Christ, j'avais pas d'enseignement, il y a personne qui m'enseignait, puis je disais, ça peut pas être de Dieu, tout ça, c'est des livres. Comment que les hommes peuvent écrire n'importe quoi? Mais chaque fois que je la lisais, le feu, la nuée, le vent venaient me dire, oui, c'est de moi. Oui, c'est inspiré de moi. Et Jésus-Christ le disait aussi. Il est écrit constamment, Jésus dit. Il est écrit. Il réfère à l'Ancien Testament. Et finalement, Dieu a fini par me convaincre. Oui, c'est ça, c'est ma parole. Et tout ce qui est vrai doit aller avec ma parole et ne peut pas être contraire à ma parole. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, tout ce qui est spirituel et palpable, mais qui n'est pas enligné avec l'Écriture et avec Jésus-Christ, il ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en tant qu'homme sur terre, Dieu fait homme pour mourir pour nous, ok? Mais ce n'est pas de Dieu. Amen. C'est du palpable qu'on fait prendre le bord, qu'on jette dans les poubelles et on se réaligne sur la présence de Dieu qui est si bonne. C'est pour ça que Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ça veut dire quoi? Vous êtes vraiment ce royaume de prêtres en communion avec moi et qui me connaissent personnellement. Amen. En effet, la parole de Dieu est vivante. Et ce que Jésus nous offre, c'est pas de la théologie, c'est pas des théories, c'est la vie. Et je vous réfère à nouveau à ce Alex, qui m'a vraiment impressionné dans son témoignage. On le voit sur vidéo, son témoignage. Il dit, j'ai rencontré la vie. Pas l'énergie. Elle, je la connaissais déjà. J'ai rencontré la vie. Un homme qui avait fait toutes sortes d'expériences palpables spirituelles quand il a rencontré Jésus, il a tout mis à sa poubelle. Puis il a dit, là, je viens de rencontrer la vie. Amen. J'ai invité le groupe de musiciens de venir. Je veux vous laisser avec ça. Ce que Dieu a annoncé, ce que Dieu a révélé plutôt à Moïse de ce qu'il avait le goût de vivre avec sa création, de ce que son désir, lorsqu'il nous avait créés, c'était d'être en communion avec nous, c'est qu'on le connaisse et que lui nous connaisse et qu'on vive cette communion-là. C'est drôle parce qu'il le répète dans l'Apocalypse, ok, par Jean. Et ça dit comme ça. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu notre Père. À lui soit la gloire, la domination au siècle des siècles. Amen.